Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la libre antenne de Dynamique Radio. Bonsoir J. Warner.
Salut, bonsoir.
Salut J. Warner.
Et bonsoir Colonel.
Et bonsoir.
Ça va Colonel?
Tout va bien.
Tout va bien. Alors Colonel,
Pas partout. Pas partout.
Non, pas partout. Hein. La guerre est aux portes de l'Europe. Et justement, c'est le sujet du soir. Voilà. Va-t-on vers la paix ou continuons-nous la guerre,
Colonel? Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que nous allons vers la paix en Europe, vers la paix en Ukraine, ou est-ce que nous allons vers la guerre? Je pense qu'il faut se poser des questions. Et je vous propose ce soir de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur de vue par rapport à tous les médias que nous entendons tous les jours.
C'est un peu le principe de cette libre antenne, grâce à toi.
Tous les médias que j'entends, moi, personnellement, que ce soit à droite, à gauche, bon, c'est toujours la voix de son maître, c'est toujours la même chose. Donc je pense que nous devons nous poser des questions. Voilà, quelle est aussi la place de la France dans ce conflit, voilà. Ça, il faudra pouvoir se poser des questions et y répondre, voilà. Quelle est la place de l'Europe, voilà. Et quelle est aussi, je dirais, la place de ce conflit dans l'histoire. Parce que je pense que si on ne regarde pas un petit peu ce qui s'est passé en Europe, et puis quelles ont été les différentes relations internationales des différents pays, je veux dire, dans le monde entier par rapport à ce conflit, eh bien, on peut pas tout à fait apprécier la situation. Et l'image qui m'est venue pour apprécier la situation avec vous, c'est un peu celle d'un tableau impressionniste, qui est, que ce soit au musée d'Orsay ou ailleurs, tableau de Renoir, tableau de Manet, coucher de soleil que certains connaissent, c'est des petites touches. Il y a plein de petites touches de différentes couleurs. Et quand on regarde le tableau de tout près, on voit que les touches. Mais quand on regarde de loin, on voit la beauté du paysage ou la beauté de l'œuvre. Et je pense que c'est un petit peu ça que je vous propose de faire, c'est de donner quelques petites touches pour essayer de mieux apprécier la situation. Et puis répondre à vos questions, bien sûr, parce que c'est important aussi d'y voir un peu clair sur le sujet, quoi.
Très bien. Alors, par quoi commence-t-on? Par quelle touche?
Alors, peut-être une petite touche, juste un petit constat sur le début du conflit il y a un an, parce que je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier que nous sommes aujourd'hui au mois de février.
Et ça fait
et que le 20 février 2014, je veux dire en 2014, il y a eu le début
en
du
2014,
conflit.
2014, ok. Oui, donc c'est pas il y a un an.
Que pendant 8 ans, il y a eu des centaines de morts et des centaines de morts. De la population russophone et russophile de ces deux provinces, je dirais, de l'Ukraine, qu'il y a eu les accords de Minsk qui ont été faits, mais qui ont été totalement bafoués, au point que Angela Merkel, la chancelière allemande, a dit « Mais c'était fait exprès pour ne pas les appliquer et pour que l'Ukraine se prépare à faire la guerre ». Elle a fait cette déclaration. Et le 21 février 2021... il y a effectivement eu, de la part de Poutine, je dirais, une question qui s'est posée sur, genre, 2022 d'ailleurs, c'est la prononcer un discours en disant « Je veux l'indépendance et la sécession de ces deux provinces ». Et ça a déclenché des sanctions économiques. Et puis, le 24 février 2022, c'est bien, effectivement, une autre allocation de Poutine et le déclenchement de l'opération spéciale telle qu'il l'a définie pour, je dirais, protéger les populations qui sont sous le feu, il faut le dire, objectivement, historiquement, ça c'est déjà reconnu, sous le feu de toute l'artillerie ukrainienne. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est le 21 février 2021, les sanctions économiques.
C'est toujours le mois de février. Et c'est le mois de février est très important dans ce conflit. Donc, d'ailleurs, il va pouvoir se passer des choses.
Exactement.
Il se passe des choses sur le terrain.
Alors, les sanctions économiques. Moi, je pense que là, il faut vraiment poser la question. Est-ce qu'elles ont servi à quelque chose?
Ben, pour le moment, a priori,
qu'est-ce
on peut
que
se dire
l'on constate
pas encore.
Ben, disons, au résultat, très clairement, les sanctions économiques étaient dans l'historique, je dirais, pouvaient amener à ce que, effectivement, la Russie soit en difficulté, et à cause de ça, ne puisse plus assurer la logistique, ne puisse plus assurer le ravitaillement des troupes, ne puisse plus assurer la bataille, et soit obligé de s'arrêter. Le résultat n'est pas du tout celui-là. Et donc, actuellement, l'économie russe, elle est bonne, elle est même très bonne, meilleure que l'économie européenne. Et donc,
oui, c'est quand même
la croissance du... Il y a effectivement...
Assez étonnant.
Ben, c'est assez étonnant, mais en même temps, ça montre qu'il y a une capacité des Russes à, je dirais, s'autosuffire, que n'a pas l'Europe.
Marché important, voilà. La Russie.
Et en même temps, à savoir trouver des marchés extérieurs qu'ils avaient déjà.
Oui, bon. les pays satellites.
Voilà, puis même les gens du BRICS, l'Inde, la Chine, etc. Oui. On en a parlé un petit peu la dernière fois, je reviens pas dessus. Mais c'est clair qu'ils ont parfaitement su, je dirais, gérer ces sanctions économiques qui se sont retournées.
Donc finalement, pour en résumer ce que tu dis, c'est plutôt en Europe qu'il y a des difficultés économiques actuellement.
Bien sûr.
Le voit à travers le gaz, l'électricité,
l'inflation. Grosse inflation.
Alors qu'en Russie, a priori, le pouvoir politique soutient l'économie et il y a une forte capacité de développement avec d'autres pays.
Oui, et puis une gestion par le ministre des Finances russe, je dirais, de cette période difficile qui a été très bien gérée, avec des restrictions au niveau, je dirais, des particuliers, mais des entreprises, de manière à éviter justement qu'il y ait d'inflation.
Donc par rapport à ce sujet-là, en fait, finalement, les sanctions aujourd'hui n'amèneront pas la Russie à demander un accord de paix.
Alors, la Russie, pour demander un accord de paix, effectivement, elle faudrait, selon, je dirais, la démarche occidentale, ça serait effectivement qu'elle soit à genoux. Voilà.
Oui, puisque c'est pas le cas, en fait.
Puisque certains hommes politiques avaient dit, nous allons mettre l'économie russe à genoux.
Oui, d'ailleurs, des politiques français, hein, tiens à préciser, voilà, notamment le ministre de l'économie actuel.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Ben non, c'est toujours pas le cas.
Je pense pas que ça soit le cas dans les mois ni les semaines à venir.
Nouveau package, quand même, voilà. De sanctions qui devra arriver aussi prochainement.
Là, déjà, une mesure politique, une mesure économique qui,
insuffisante.
Non, mais qui est mauvaise.
Bon. Oui.
Et puis en plus, qui démontre bien aussi que les Russes s'y sont préparés et que les Russes ne sont pas des imbéciles et que à ce jeu-là, ils sont capables aussi de défendre leur beefsteak. Je pense qu'il faut vraiment ne pas l'oublier.
Ce qu'est le cas actuellement.
Voilà, parce qu'ils croient, ils ont un certain nombre d'éléments de conviction. Ils sont convaincus qu'effectivement leur position est la bonne aujourd'hui. Et donc il faut l'entendre. Et alors ça, c'est un des aspects que je voudrais aborder également, c'est qui aujourd'hui, en prenant de la hauteur de vue, accepte qu'il y ait plusieurs points de vue. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté dans tous les médias français en particulier, c'est que on n'est pas autorisé à avoir un autre point de vue que le point de vue ambiant.
On l'entend.
Et je crois que c'est complètement contraire à une gestion de crise. C'est-à-dire, pour bien gérer une crise, et moi j'ai, dans mon domaine, travaillé sur les gestions de crise, il faut regarder toute la panoplie de ce que l'on peut faire ou ne pas faire, toutes les options possibles pour agir par rapport à l'adversaire que l'on a défini. Et quel adversaire? Sinon, ça se retourne contre soi. Donc, avoir une connaissance de l'adversaire, avoir une connaissance aussi de nos capacités, et puis se poser des questions sur le bien fondé de telle ou telle démarche, est-ce que, effectivement, la France peut se poser la question, est-ce que il y a un bien fondé à avoir accepté, par exemple, de manière économique, à ce que l'électricité, EDF, que chaque Français paye aujourd'hui à des sommes folles, soit indexée sur le gaz cause d'une décision européenne qui a été préparée par les Allemands. Et ça, on va revenir dessus. La question se pose, pourquoi la France aujourd'hui, comme l'Espagne et comme le Portugal, ne dit pas « Merde, j'ai mon indépendance, je développe mon économie, pourquoi ?»
Mais pourquoi ?
Pourquoi ce manque de courage ? C'est une vraie question. Je pense qu'il faut...
Ils sont artisans du pacte européen et ils veulent pas quitter l'Europe, au moins d'un point de vue, on va dire, strictement économique.
Je
quoi.
Crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui,
c'est notre charité un peu chrétienne ou notre charité qui fait que on est important au sein du cadre européen, puisque ça s'est construit sur l'axe franco-allemand, l'Europe.
Exactement. Donc c'est
la
question.
Donc du coup, si la France quitte l'Europe, au moins dans un premier temps économiquement, ça reste de poser quelques
points. Ça pose la question que tu viens de soulever de l'anniversaire du couple franco-allemand. Est-ce que tu sais quelle a été la fête, l'anniversaire du couple franco-allemand qui a été fêté là au début du mois?
Bah, l'anniversaire, moi j'ai
c'était le 60e anniversaire.
D'accord, de cette amitié
oui,
de la fin de...
Cette année, en 2023.
Ouais,
c'est 60e anniversaire.
60 ans, c'était en... 2023,
c'est l'accord entre Adenauer et De Gaulle.
D'accord.
Qui a eu lieu, effectivement. Donc il y a 60 ans.
Moi, j'ai en tête l'image de François Mitterrand marchant main
dans
la main.
C'est en 1963. Non, mais c'est 1963.
Oui.
C'est ça.
Mais c'est un accord qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale.
C'est l'accord qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, qui montre que si, je pense qu'il n'y a pas, je dirais, un accord entre la France et l'Allemagne, il ne peut y avoir que des ennuis en Europe.
Mais par rapport
et
à
aujourd'hui,
notre sujet.
Je pense que ce que tu viens de dire par rapport à, au gaz, on a une démonstration qu'il y a malheureusement un gros problème dans le couple franco-allemand. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je suis pas le seul à le dire.
Mais
on
par rapport à notre sujet, revenons à notre sujet.
Ça revient au sujet.
Oui, oui. Guerre ou paix, est-ce que la France a intérêt à ce que, finalement, il y ait un état de guerre? Est-ce que nous, notre intérêt, finalement, c'est qu'il n'y ait pas une guerre en Ukraine et qu'il n'y ait pas un conflit entre la Russie
c'est
et l'Ukraine?
Question.
Est-ce que, finalement, de laisser traîner tout ça, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un conflit? Alors aujourd'hui,
peut-être.
On se rend compte que non, parce que le peuple, entre guillemets, souffre, parce qu'on subit l'inflation, on subit donc cette inflation. Mais on sait que l'inflation, c'est un process économique qui permet de désendetter beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas d'inflation.
Mais finalement, le fait que le peuple souffle, est-ce que ça fait pas de nous des dommages collatéraux?
Ben, ça nous fait, on fait partie des dommages collatéraux, mais est-ce que l'État français, finalement, ne se contente pas de ce conflit aux portes de l'Europe?
Alors, c'est une
parce
vraie
que,
question.
Est-ce qu'on a intérêt à aller vers la guerre ou vers la paix?
Voilà. Alors,
c'est
je vais poser une question. Qu'est-ce
que
qui s'est
discours,
passé?
Le discours, on le sait, c'est aller vers la paix. Oui. Nous, on est un pays de diplomatie. Donc, entre guillemets, généralement, on met les gens autour d'une table pour que il se passe un process de réconciliation. Aujourd'hui, Macron a dû tenter et il n'y est pas arrivé.
Ouais.
Est-ce que alors c'est quoi la tendance? Est-ce que
la question c'est une autre petite touche sur le tableau impressionniste. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 février 1943?
Alors là, on revient à 80 ans.
Ah oui, mais
ou
ça concerne l'Allemagne.
70 ans,
ça concerne l'Allemagne directement.
Ben en 43
c'est
en
la
février,
défaite, c'est la défaite de la bataille de Stalingrad, la défaite des Allemands.
D'accord.
Mmh. Ah oui.
Donc il faut pas l'oublier, c'est 100 000 morts. Hein. Et c'est la victoire des Soviétiques.
Ok. Mmh.
Et c'est la victoire des Soviétiques qui ont détruit 3 000 chars allemands.
D'accord.
Donc ce qu'on parle de chars. Et là la question se pose, si on va vers la paix ou vers la guerre, quand dans tous les médias on entend actuellement le mot char qui apparaît. C'est un vocabulaire le mot char. Et pour toutes, je dirais, pour toutes les personnes qui ont une culture un minimum, je dirais, de l'histoire de France qu'ils ont appris dans leur classe, le mot char, ça veut dire guerre.
Mmh. Bon. Oui.
Jusqu'à présent, l'Ukraine, on parle de ci, on parle du LM, enfin, on parle de petits drones, on parle de petits avions, pardon. Ça fait pas, c'est loin, ça fait pas peur. On commence à parler de char, là, les gens se posent des questions.
Effectivement.
Je pense qu'aujourd'hui, donc, la bataille de Stalingrad, faut pas oublier, c'est 100 000 morts. Et ça se trouve où, Stalingrad? Ben, ça se trouve tout près. C'est en plein dans cette zone-là. Et là, la question se pose, si, est-ce que les Russes, donc les Russes, qui ont gagné la bataille de Stalingrad, qui ont donc libéré l'Europe des nazis.
Bon. Oui, oui.
Est-ce que, aujourd'hui, ils vont accepter que des chars allemands viennent attaquer la Russie? Parce que quand on attaque...
Mais est-ce que les chars allemands vont attaquer la Russie aujourd'hui?
Ben,
c'est pas le cas.
Là, d'après ce qu'on entend, l'Allemagne est prête à donner des chars.
D'accord. Donc, ah
on
oui.
Pas attaquer directement.
C'est
mais
indirectement. Quoi.
Alors,
c'est
la question se
les
pose,
chars allemands...
la question se pose, est-ce que aujourd'hui, un char allemand peut être utilisé? Il faut bien que chaque...
Par des Ukrainiens, non.
Chaque auditeur se pose la question, est-ce qu'un char allemand peut être utilisé dans les mois qui viennent par un
Ukrainien?
Ben non,
il faut être formé.
Ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui va piloter actuellement les chars allemands?
Bah, effectivement, les chars
soldats allemands.
Bah oui.
Peut-être pas en premier. Bah oui, tout à fait.
Des Polonais.
Qui est en première ligne et qui a une haine, malheureusement viscérale, de la Russie?
Les Polonais.
Les Polonais. Donc aujourd'hui, il y a déjà combien...
D'ailleurs, le budget militaire polonais explose.
Il y a combien de milliers de Polonais actuellement qui font la guerre en Ukraine?
Alors ça, c'est une bonne question.
Une très bonne question.
Mais
s'il
y en a déjà? Zéro.
C'est officiellement.
Zéro.
Zéro.
Oui.
En réalité.
En réalité.
Des milliers.
Moi, des milliers. D'accord.
Il y a actuellement des milliers de Polonais qui sont déjà engagés à titre, je vais dire, malheureusement.
Non officiel.
Non officiel, personnel, mais qui sont déjà engagés. Pourquoi? Parce que il y a une mentalité, en Pologne qui a beaucoup évolué. Et ça, il faudra se poser la question, justement, qu'est-ce qui a évolué dans la mentalité polonaise depuis 30 ans? Il y a vraiment une évolution. On
oui,
est
il y
plus,
a eu du nationalisme plus, un peu aussi.
C'est-à-dire que la Pologne a été libérée avec le mur de Berlin, etc. Et à ce moment-là, c'était vraiment une victoire, bien sûr, sur le joug soviétique, mais c'était aussi une libération et puis quand même aussi une victoire, faut le dire, au moins au niveau spirituel et politique, par le pape Jean-Paul II qui a été vraiment un artisan de cette libération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup la voix de l'Église en Pologne. On n'entend pas beaucoup de la voix de l'Église parce que...
On entend la voix des militaires en
Pologne. On entend la voix des militaires.
Oui, aujourd'hui,
et on entend la voix de gens qui sont, non pas dans l'amour du prochain, d'aimer l'autre tel qu'il est, et d'essayer de construire avec le voisin, mais au contraire, ils sont dans une certaine rivalité.
Donc là, par rapport à ce qu'on disait,
une revanche, quoi.
Est-ce qu'on va vers la guerre ou vers la paix? Là, si on t'écoute, finalement, un pays européen comme la Pologne a plutôt tendance à te dire, on va vers la guerre, on va pas vers la paix.
Alors, est-ce que le Portugal a intérêt à cette guerre alors qu'elle fait partie aussi de l'Europe?
Là, on peut, non.
On peut penser que non. Alors, est-ce que tous les pays européens, tous les pays européens sont effectivement
L'Allemagne
dans une démarche d'intérêt.
Ouais. L'Allemagne n'a peut-être pas intérêt à ce que le conflit continue parce qu'ils n'ont plus la ressource du
gazière,
notamment. Mais maintenant, est-ce qu'elle n'est pas sous le joug américain et...
Voilà, alors la question se pose.
Elle achète américain.
Alors, je vais revenir à une autre anecdote. Donc, on a parlé de la bataille de Stalingrad, c'est quand même intéressant. Ça montre bien que les Russes n'accepteront jamais de voir des chars allemands venir attaquer la Russie.
Hein. Mm-hmm.
Ça, ils n'auront jamais accepté ça.
Donc, pour l'instant, c'est outil de défense.
Deuxième petite anecdote, c'est qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1870.
Alors là, on est 200 ans, enfin, 150 ans.
Oui.
150 ans avant. Donc là, c'est peut-être l'Empire austro-hongrois.
En 1870. La guerre de 1870.
Ah, bah, c'est la Prusse.
Oui, c'est la Prusse. Oui. Et il y a une victoire en septembre. Donc, ça va être 2 septembre.
Je ne dis pas en février, parce que.
2 septembre 1870. C'est la victoire des Allemands à la bataille de Sedan, la victoire des Prussiens.
Oui, face aux troupes de Napoléon III.
Il y avait Bismarck, il y avait donc effectivement, face à Napoléon III, qui a été fait prisonnier, bon, je ne reviens pas dans le détail. Et effectivement, il y avait 200 000 Prussiens contre 120 000 Français, voilà. Et je vais donner un petit chiffre quand même, il y avait 774 canons prussiens et 564 canons français.
Donc, qu'est-ce que tu sous-entends?
Il y a deux choses que je voulais dire, c'est d'abord que dans tout conflit, dans toute guerre, il y a des rapports de force. Mmh. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, quand on envoie 50 chars, 100 chars ou 300 chars sur un théâtre d'opération, il faut que les Français se posent la question, est-ce que c'est adapté à la bataille? Le front, là-bas, l'attaque du front, c'est en gros, je dirais du côté des deux provinces, etc., c'est en gros entre 800 et 1000 km.
Ouais. Bon. Il y a 1000 km de front.
Voilà, donc à peu près 1000 km de front. Si on met 300 chars sur 1000 km de front...
On parlait de superficie de,
ça fait un
de char par bon. Char par
alors,
kilomètre
bien
carré.
Alors, bien sûr, les grands théoriciens, vous allez entendre tous les grands généraux de toutes les armées, vont vous dire, ben oui, mais vous comprenez, pas question de mettre un char toutes les 5 km. Il est question éventuellement de faire un regroupement pour faire une attaque forte sur
un endroit
précis. Percé. Mais, à contrario, il faut se poser la question, plus je suis concentré en termes de chars, plus je suis vulnérable.
Oui.
À l'aviation.
Oui. Oui. Et l'aviation,
plus je suis vulnérable, plus je suis vulnérable aux drones.
Oui. Parce que l'Ukraine n'a pas d'aviation aujourd'hui.
Mais là, mais l'Ukraine n'a pas beaucoup d'aviation, elle en a un petit peu. Mais est-ce que, effectivement, aujourd'hui, donner 300 chars, est-ce que c'est pas symbolique?
D'accord. Donc toi, tu considères que c'est de l'ordre du symbole. Et d'ailleurs, on voit le gouvernement français.
Il ne va pas en donner, finalement.
Ne donne pas. Alors, Zelensky était à Paris.
Alors, bonne question. Nous avons en France.
Ils n'ont rien donné.
En France, nous avons, Fred, nous avons combien de chars de combat? Combien de chars Leclerc? Allez, hyper moderne, bien sûr.
Si je te dis 300?
Non. Même pas.
Plus?
Non.
Non, même pas.
150?
Non.
Mais 200 chars, hein.
200 chars.
200 chars.
Même pas. 200 chars.
Donc 200 alors, chars en France.
200 okay. chars en 200. France, voilà. Et donc 200 chars, et effectivement, qui ont chaque régiment, donc il y a 4 régiments de chars de combat, de chars Leclerc, qui ne servent pas depuis leur fabrication.
Oui,
ils n'ont jamais servi.
Mais pourquoi on les...
Parce que effectivement, on était passé maintenant dans des conflits, je dirais, différents, où effectivement, on n'a pas envoyé de chars Leclerc en Syrie, on n'a pas envoyé de chars Leclerc en Irak, et donc on a vu que ce n'était pas utile. Et pourquoi ce n'était pas utile? Pourquoi l'utilisation des chars a été extrêmement réduite?
Bah finalement, c'est parce que c'est approprié à une guerre entre guillemets, c'était une guerre ciblée, où il fallait détruire une cible.
Oui, mais la conquête, par exemple, en Irak, de certaines zones, avec des chars, ils ont commencé. Mais tout de suite, ils ont été ciblés par l'aviation. Et donc les chars, à un moment donné, ils vont pas très loin.
Non, ça c'est sûr. À moins que ça soit des chars anti-défense.
Et la guerre...
qui est aérienne.
La fameuse guerre, c'est en 1967, si mes souvenirs sont bons, entre Israël et l'Égypte, a bien montré justement qu'avec l'aviation israélienne, oui. Tous les chars égyptiens étaient
ont explosé.
Totalement explosés.
Bon. Donc les chars, ça ne sert à rien.
Alors la question qu'on peut se poser, je fais deux petites questions d'anecdote comme ça, oui. Encore une petite touche du tableau impressionniste. Est-ce qu'on peut penser que les Russes ne savent pas tout ça?
Ben non, ils sont.
Les Russes ne sont pas plus idiots que les autres. Ils savent ce qui s'est passé en 1967 avec les chars. Ils savent comment ça peut se passer demain. Donc, mais si jusqu'à présent, ils n'ont pas, je dirais, mis en avant beaucoup de chars, un peu, mais pas beaucoup, et pas les plus modernes, c'est qu'ils ont peut-être des raisons aussi. Bon. Et puis, deuxième chose, pour que je revienne à pourquoi je parlais aussi de la bataille de Sedan et pourquoi je parlais de cette victoire allemande, cette victoire prussienne. Donc la victoire de Bismarck et la victoire donc de Guillaume de Prusse. Et quel était le pays qui a félicité en premier Bismarck de cette victoire à Sedan sur la France?
Le Tsar, la Russie?
Non.
Non. L'Angleterre?
Non.
La Pologne?
Les États-Unis.
Les États-Unis. Ah, oui.
On est en 1870 et curieusement. Les Américains félicitent en premier les Allemands, les Prussiens, de cette victoire sur la France. Pourquoi ?
Bah, y a du commerce à faire.
Bah, parce que je pense que, d'une certaine manière, les États-Unis ne veulent pas d'une puissance en Europe qui les gêne. Mmh. Alors, aujourd'hui, quelle est l'alliance de base qui existe, je dirais, officiellement, c'est le couple franco-allemand.
Oui, on l'a dit.
Mais comme l'a dit un ami, un historien il n'y a pas longtemps, dans ce mariage, en fait, la France ne savait pas que c'était un mariage à trois. C'est-à-dire que les Allemands étaient déjà mariés.
Avec les Américains, c'est ce que tu veux dire.
Voilà. Comment? Qu'est-ce qu'on a comme preuve de ça? D'abord, oui, cette information, voilà, qui date de Sedan. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'éléments. Et, dernièrement, est-ce qu'on connaît la vie d'Angela Merkel?
La vie?
Quelle était sa vie? D'où vient-elle, Angela Merkel?
D'Allemagne de l'Est.
Oui.
Oui.
Exact.
Elle était scientifique, elle était, je sais plus ce qu'elle faisait, elle était chimiste.
Oui. Elle a fait des études où encore?
Aux États-Unis.
Je crois qu'elle en a fait aux États-Unis, effectivement.
Oui. Elle a été recrutée par qui?
Mmh. Elle a été recrutée par qui aux États-Unis,
oui.
Dans une grande boîte américaine.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
De chimie, alors de biochimie, de Exxon.
Non, ou... par un organisme de l'État qui s'appelle la CIA.
Oh là.
Aujourd'hui, on peut penser.
Ça, les médias n'en parlent pas.
Aujourd'hui, il y a des livres qui commencent à parler et qui précisent qu'effectivement, a priori, elle était effectivement proche de la CIA.
Colonel. Là, c'est quand même incroyable ce que vous nous dites, parce que, chers auditeurs, si vous avez la chance d'écouter cette émission régulièrement, d'écouter le colonel, que ça soit en direct, en podcast, ou d'une manière ou d'une autre, là, on est en train de vous dire quelque chose d'énorme, que Angela Merkel faisait, selon colonel, et selon des sources, de sources sûres, que elle faisait partie de la CIA.
Elle faisait pas partie. Elle avait été, je dirais, recruter comme ça se fait, pour pouvoir ensuite, plus tard,
être utilisé,
et puis servir les intérêts américains. Alors, à ça, il y a un troisième élément que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, c'est que déjà, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les Américains avaient pour habitude en Europe d'acheter les hommes politiques.
Oui. Est-ce que ça a été le cas en France?
Ça a été le cas en France, c'est une bonne question. Alors, ça, c'est une excellente question. Il y a eu, par exemple, je vais donner un exemple précis. Quand le général de Gaulle a décidé de la dissuasion nucléaire.
Ouais.
C'était contraire, bien sûr, à la volonté des Américains. Parce que les Américains voulaient avoir l'hégémonie sur la France. Et donc, quand de Gaulle a décidé ça, comment a-t-il fait? Comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale?
Alors là, on est bien jeune pour te le dire.
Eh ben, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de débat. Ça a été le
49.3, l'article 49.3
qui a été utilisé. Pourquoi?
Pour
quelle raison de Gaulle a fait ça?
Bah, pour garder la main.
Oui, parce qu'à l'époque déjà, il y avait des enveloppes. Est-ce que tu connais les enveloppes? C'est ce que c'est que les enveloppes?
Oui, les enveloppes, c'est du liquide.
C'est de l'argent liquide qui était donné par qui à qui? Les députés qui devaient voter allaient régulièrement à l'ambassade
des États-Unis.
Et recevait une enveloppe pour que tout le groupe vote contre.
Mais d'ailleurs, c'est peut-être le cas des États-Unis, mais c'est le cas aujourd'hui sans doute des pays du...
Il faut se poser la question.
Des pays du Golfe, ça devait être le cas aussi de la Russie.
Bien sûr.
On savait qu'il y avait des agents
infiltrés aussi. Il faut se poser la question de qui, je dirais, quelquefois, a reçu le plus
d'enveloppes. À qui tu appartiens, quoi.
À qui a reçu le plus d'enveloppes.
Quel est ton maître?
Voilà. Et donc, il faut quand même savoir que parmi ceux qui ont reçu des enveloppes, il y avait M. Mitterrand, quand même.
D'accord. Ok.
Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de quelle est la place de la France, quelle est l'indépendance de la France. De Gaulle voulait, je dirais, une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et c'est sûr que c'est une puissance qui était basée sur la France, les pays latins et la Russie. Faut bien l'entendre.
Oui, l'axe donc, franco-russe a existé
bien sûr,
et toujours, hein, parce bien qu'ils sûr. Ont apprécié aussi, ils appréciaient notre culture. Ils parlaient français
la musique,
aussi,
ils parlaient français.
Ils parlaient français, c'était la deuxième langue, quoi. Ils apprenaient le français.
Oui.
Donc ils ont quand même, ils sont assez francophiles.
Ah, mais complètement.
Et donc je pense que Macron a quand même essayé de garder un lien aussi avec Poutine, en se disant, bah écoutez, c'est vrai que votre culture, notre culture, ça a toujours entre guillemets matché, hein, contrairement notamment aux Anglais à Londres où les milliardaires allaient. On en a parlé dernièrement. France, il y avait un côté culturel qui rentrait.
Et puis, il faut pas oublier non plus que je reviens à la bataille de Stalingrad, et ça, on n'en parle pas. Vous avez aucun journaliste qui va vous le dire. C'est que dans l'armée des Allemands, dans l'armée nazie, qui y avait contre les Soviétiques, contre les Russes? Qu'est-ce qu'il y avait comme militaires? Des militaires allemands, oui, plus qui?
Bah, des...
Alors, il y avait des militaires.
Pardon, j'ai pas remis mon micro.
Il y avait des militaires, non, pas polonais. Il y avait des militaires roumains,
des militaires hongrois,
des militaires croates.
Ouais, ils étaient, assez nazis. Ouais.
Qui étaient tous dans l'armée, allemande.
Ouais.
Et donc, c'est aussi tous ces gens-là qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément la même position que les Polonais.
Ah bah non, c'est sûr.
On est d'accord. Et donc, c'est pour ça que tout ça, c'est autant de petites touches qui font qu'il y a des différences. Et
alors,
qu'il faut se poser la question
du jeu.
Je reviens sur le Général de Gaulle.
Pour conclure.
Ben, là, il y a encore pas mal de petites choses à regarder.
On fera peut-être une pause musicale et on reviendra après.
C'est effectivement à se poser la question, je dirais, c'est quel est le jeu des Américains dans tout ça? Ont-ils changé de jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ils acceptent que la Russie ait une certaine puissance en Europe ou pas?
Ok, très bien. Voilà, c'est la question. Bon, bah, à tout de suite,
hein,
restez avec nous.
Pour la suite.